Tu es bénie entre toutes les femmes. Chers frères et sœurs, il n'est pas rare d'entendre que dans notre société, la femme n'a pas la place qu'elle mérite. Il n'est pas rare d'entendre que la révolution féministe de ces dernières années a permis à la femme d'avoir enfin sa dignité et sa reconnaissance. Il n'est pas rare d'entendre non plus que l'Église ferait bien aussi de suivre cette révolution pour donner enfin aux femmes la place qu'elles méritent. Je me permettrai cette image, il en va de la répartition du rôle de la femme et de l'homme, si l'on peut prendre une image du mystère d'une montre. Une montre est composée de mécanismes qui, si l'on peut dire, est la partie la plus noble, précieuse, délicate et la plus importante d'une montre. Et puis, comme le dit le terme, la montre a aussi une façade avec ses aiguilles et qui nous donne l'heure. Il serait intéressant peut-être d'inverser les rôles entre les mécanismes les plus précieux, les plus cachés, pour les mettre à la place des aiguilles. Vous imaginez que cela ne nous servirait pas finalement à grand-chose. Il faut que les aiguilles puissent montrer l'heure, que la façade de la montre puisse montrer ce qu'elle désigne et que les mécanismes puissent garder leur rôle essentiel, si important et si noble. Je dirais qu'aujourd'hui, ce que nous célébrons, c'est une révolution féministe. C'est la place de la femme qui est mise au centre de nos sociétés, de notre pays, de tout le cosmos. La Vierge Marie, il est vrai qu'il est souvent dit qu'elle est discrète. On ne parle à peine d'elle dans nos évangiles, un petit peu d'elle dans l'Ancien Testament. Elle est souvent mise sous l'ombre de son Fils. Et certains, finalement, vont réagir du coup en disant il faut la mettre un peu partout. Et certains vont même oublier de parler de Jésus et tout le temps parler de Marie, de Marie et de Marie. Et on nous reproche même parfois à certains frères de ne pas parler assez de Marie. Je dirais que le danger serait de la sortir de son rôle de mécanisme précieux, de petite pièce fondamentale dans un édifice si grand, ce serait de la déifier, de la montrer trop. La fête que nous célébrons aujourd'hui va nous donner la juste mesure. Donnons la parole à sa cousine Élisabeth. Laissons aussi Jean-Baptiste tressaillir en son sein et nous dire « Toi la femme, toi la nouvelle femme, tu es bénie entre toutes les femmes. » Oui, Marie, c'est vrai qu'elle est prise parmi les femmes. Elle appartient à notre race. Elle est vraiment femme. Nous, catholiques, nous croyons très fermement en un Dieu qui se manifeste en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. La Trinité, elle, Père, Fils et Saint-Esprit, se suffit à elle-même. Elle n'a rien de besoin de plus. Elle ne saurait se rajouter une quatrième personne. Marie, si l'on peut dire, n'a rien à voir avec eux. Marie n'ajoute rien à la Trinité, ni à l'efficacité de son unique médiateur et sauveur qu'est le Christ. Marie, elle, est la première de notre race à jouir des fruits de la passion et de la résurrection de notre Seigneur, voire plus même à être glorifiée, c'est-à-dire de participer déjà à la gloire de Dieu, qui est notre vocation à chacun. Gloire à laquelle nous aspirons tous. C'est finalement notre vocation au bonheur. Marie, elle, est notre espérance. Elle jouit déjà en Dieu de cette présence totalisante. En ce sens, on pourrait l'appeler Marie la victorieuse, la première. C'est pour cela qu'elle joue un rôle de médiation pour nous, conformément à la ligne directrice de toute sa vie. Il y a quelque temps, en 1950, le pape Pie XII a jugé bon de proclamer le dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Parce qu'il a voulu éclaircir la parole de l'Apocalypse, qui, il faut l'avouer, ne sont pas toujours faciles à comprendre, car elles sont comme cachées à demi-mot. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles couronne sa tête. Alors, le magistère a cru bon d'authentifier et de proclamer comme vérité de foi ce couronnement que la tradition portait depuis déjà bien longtemps comme une évidence jusqu'à ce jour. L'Église déclare qu'elle a été préservée de la corruption du tombeau, comme son Fils, après avoir vaincu la mort. Elle, elle a eu le privilège d'être élevée en son corps et en son âme, à la gloire au plus haut des cieux, pour y resplendir comme une reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. Mort que les catholiques orientaux vont qualifier de dormition. Ça, c'est clairement le signe qu'elle a été préservée du péché des origines, qui a eu pour conséquence de faire rentrer la mort dans le monde. Elle a été victorieuse de cette mort. Elle ne peut supporter la séparation de son corps et de son âme pour être assumée tout entière au ciel. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est son couronnement. Elle est descendante d'Ève, et dès le IIe siècle, les saints-pères ne tarderont pas à l'appeler la nouvelle Ève. Elle est la descendance, celle que Dieu appelle dans la malédiction donnée au serpent, c'est le lignage d'Ève, c'est la descendante d'Ève qui aura pour vocation d'écraser la tête du serpent, d'écraser la tête du diviseur, du menteur. Lui qui a fait entrer ainsi le péché dans le monde, elle, la première Ève par qui le péché est rentré, eh bien c'est elle, la nouvelle Ève, par ce même canal, cette même blessure qui va faire rentrer la vie pour toujours, pour l'éternité dans le monde. C'est ce que nous avons vécu le jour de notre baptême. D'elle devait naître le nouvel Adam, celui qui fera aboutir par son offrande sur la croix la victoire totale sur le péché et sur la mort. Lui, le réunificateur de ce qui a été divisé en nous. En effet, la bonté de Dieu ne pouvait correspondre, à la bonté de Dieu ne pouvait correspondre à la division de l'homme. Dieu ne pouvait faire autrement que de nous partager sa bonté, son unité. Dieu ne pouvait supporter de voir ses enfants divisés, fractionnés en eux-mêmes. Dieu voulait absolument rassembler ses enfants dispersés par le péché. L'amour de Dieu est diffusif. Dieu ne peut garder ce cœur si généreux pour lui. Il faut qu'il nous le donne, il faut qu'il nous le communique. Voilà ce que nous désirons, comme le dirait Saint Paul, comme le dit Saint Paul, l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. L'Assomption de la Vierge Marie est pour nous comme un phare. Elle illumine notre pèlerinage sur la terre. Elle est là comme un signe que la pédagogie de Dieu est efficace en nos vies. Si elle peut être parfois bouleversante, scandaleuse aux yeux des sages de ce monde, elle vient arracher la mort des griffes du démon pour la rendre source de vie. Marie a joui en premier de la mort vivifiante de son Fils pour être ajustée à son Dieu, but de toute vie chrétienne. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné tous les hommes dans une condamnation, de même, l'œuvre de justice d'un seul procure à tous la justification qui donne la vie, nous dit saint Paul aux Romains. Marie, elle, est cette femme extraordinaire. Elle est ce mécanisme précieux. Elle est le canal de la grâce, c'est-à-dire de la vie même de Dieu. Elle est le canal de la victoire. Elle a été l'heureux instrument de Dieu pour redonner la vie là où cette vie avait été écrasée par le démon. L'Assomption de la Vierge Marie, nous rappelle qu'il nous faut choisir sa mort comme on choisit sa vie. Par elle, il nous faut choisir la vie du Christ. Il nous faut choisir sa croix pour jouir de sa résurrection comme un chemin unique. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que le Christ, une fois ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Sa mort fut une mort au péché une fois pour toutes, mais sa vie est une vie à Dieu. Et nous, de même, considérons que nous sommes morts au péché et vivant à Dieu, dans le Christ Jésus. Alors, en ce jour de l'Assomption de Marie, soyons fermes, tenons-nous debout, ou alors relevons-nous. Elle est la source de notre espérance, elle est la source de notre consolation, elle est la source de notre confiance en Dieu et dans les promesses qu'il nous a accordées lors de notre baptême. Jean-Paul II dira « À la lumière de l'Assomption, nous découvrons que la mort est désormais le passage vers la vie, à la rencontre de l'amour. Elle est le passage de la béatitude céleste réservée à ceux qui œuvrent pour la vérité et la justice et s'efforcent de suivre le Christ. » Alors, avec Marie, vivons bien pour bien mourir, parce qu'elle est la première. Elle est la première à avoir goûté au ciel. Elle est la première à être présente aujourd'hui en son corps et son âme au ciel. Elle qui est, si l'on peut dire, la plus fidèle de tous les disciples, elle qui est la première à goûter cette espérance du ciel, elle qui a su, si l'on peut dire, être la mère de l'espérance et gouverner cette communauté d'hommes qu'étaient les disciples, elle va nous donner aujourd'hui, par les mérites de son Fils, la douceur et l'humilité de l'agneau. Qu'en elle, que par elle, en Jésus, nous trouvions le repos que le Christ veut nous accorder en ce jour. Elle nous est donnée au cœur de cet été comme un signe de réconfort pour nourrir notre espérance. Contemplons cette reine victorieuse, contemplons cette femme excellente, notre mère, notre sœur et notre reine, celle qui est bénie d'entre toutes les femmes. Implorons-lui de venir jusqu'à nous, comme elle le fit avec sa cousine Élisabeth. Alors nous la prendrons par la main pour nous laisser guider dans notre marche à travers toutes les vicissitudes du temps présent, vers la cité céleste, la Jérusalem d'en haut, d'où Dieu nous attend, pour essuyer toute larme de nos yeux. Alors, avec elle, avec la femme excellente, avec ce mécanisme précieux, ne perdons pas notre temps. Relevons-nous, gardons nos yeux fixés sur le Christ, que cette Eucharistie soit encore une fois pour nous l'occasion de renouveler notre confiance et notre espérance en Dieu. Désirons encore une fois davantage pleinement vivre pour bien mourir. Amen.